Pascal est tout excité.
Hein?
On vient de se faire flusher par Boucard Diouf.
Oui,
t'étais supposé faire Marceau le soir avec moi ce soir à 18h.
Je suis en peine.
Et finalement, Boucard...
Non, mais on va pas le dire comme ça, pauvre.
Il nous a flushé.
Bientôt. Ouais. C'est à reprendre.
Ça faisait partie des invités que je voulais vraiment rencontrer, Boucard Diouf.
Ben, on l'aurait pas rencontré, par contre, là.
Ben oui.
Il était pas en personne.
Non, c'est ça, on aurait jasé à distance.
Moi, c'est qui ma plus grande peine? J'ai déjà pleuré pour quelqu'un que je n'ai jamais rencontré.
Louis Gauthier.
Non, mais il est pas décédé, franchement.
Louis?
Quelqu'un qui est... Ben là, non. Ah. Ouais, j'ai parlé là, on va y parler dans quelques instants. Mais j'ai déjà pleuré pour une mort d'une personne que je n'ai jamais rencontrée, mais que je l'aime tellement, je l'aimais tellement. C'est une grande perte et je pense que je vais perdre tous les auditeurs à partir de maintenant. Serge Bouchard. Ceux qui connaissent l'homme, qui ont lu l'homme, qui ont écouté l'homme, comprennent absolument tout ce que je viens de dire. Je me souviens, j'étais où? J'étais chez la coiffeuse sur Saint-Joseph quand j'ai vu qu'il était décédé.
Ça t'a donné un choc?
Non, j'ai pleuré.
Oh,
j'ai
ouais.
Eu des larmes.
Parce que t'aurais aimé le rencontrer.
J'aurais aimé ça et jaser et
fait
tout.
Fait que bref, moi, je m'étais servi de toi pour avoir Boucard Diouf.
Tu penses que seulement qu'avec toi, ça n'aurait pas fonctionné?
Puis là, il a flushé. Fait que, ouais.
Mais ça aurait été notre première à Marceau le soir en duo parce que c'était Boucard Diouf.
Exact. C'est pour ça que j'ai accepté. Mais je vais laisser ma place une fois de temps en temps.
Non,
hey, 13h, on a le plaisir de jaser avec notre chroniqueur international, Louis Gauthier. Salut, Louis.
Hey, bonjour, Québec. Hey. Bonjour, Tarzan Labottine Marceau.
Grosse nouvelle, NPD qui met fin à son entente avec les libéraux, mon ami, s'est tombé dans les dernières secondes. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec Justin, là? Le gouvernement est fragilisé.
Là, je veux pas péter ta ballonne, là, mais j'avais l'information ce matin. La décision était prise, puis ça allait être annoncé lors du caucus à Montréal la semaine prochaine. Mais ça a brassé pas mal parce que c'est venu dans l'entourage de Justin Trudeau. Il y a eu un call qui s'est fait. Puis ça s'est réglé là. Ben regarde, on va le régler tout de suite, puis tu t'arrangeras avec le trou. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais la décision était prise déjà depuis hier soir pour le NPD, le caucus du NPD. On allait l'annoncer en caucus lors de la réunion à Montréal la semaine prochaine.
Donc c'est fait. Le gouvernement peut tomber quand?
Écoute, là, la reprise des travaux à la Chambre, c'est la semaine prochaine. C'est sûr qu'il va y avoir un vote un vote de confiance. Donc, ça soit le budget, ça soit le discours, le genre de mini-discours du trône en début de travaux parlementaires, ça peut avoir lieu. Mais n'oubliez pas qu'avec même l'appui du Bloc québécois, il peut garder une mince majorité. Parce que les néo-démocrates, eux, vont s'abstenir. Donc, le vote ne sera pas compté comme un refus, mais le Bloc... si tout le monde est là et tout le monde des libéraux est là, par une mince, je te dirais, une mince avance pourrait survivre à ce genre de vote.
Ça pourrait être quoi l'avantage du Bloc québécois de garder Justin Trudeau au pouvoir?
Monétaire. Parce que est-ce que le Bloc québécois a l'argent nécessaire pour se lancer dans une autre élection? T'sais, là, ils ont prévu peut-être une bonne chose jusqu'en 2025 parce qu'on a un gouvernement de coalition. On parle beaucoup d'entente, mais oui, c'est une entente, mais c'était quand même un gouvernement de coalition qui a été forgé au lendemain de l'élection de 2021 et les Canadiennes et Canadiens n'avaient pas voté pour ça. Donc, ce gouvernement-là avait, selon les analystes, selon le droit constitutionnel canadien, n'avait aucune légitimité. Parce que ce n'est pas le call qui a été fait.
Mais c'était-tu la première fois qu'on voyait ça? En tout cas, moi, de ma petite jeunesse, là, j'avais jamais vu ça. Là.
Ce que tu voyais, Pascal, c'était à l'époque du Haut et du Bas-Canada. On allait pratiquement à l'élection à chaque semaine.
je comprends. Mais admettons, une entente de ce type-là, là, on n'avait pas vu ça avant.
À un point tel que, souviens-toi, à l'époque, quand Stéphane Dion était à la tête des libéraux, il a essayé de faire une coalition parlementaire avec les autres partis de l'opposition parce que Stephen Harper avait gagné un gouvernement minoritaire, puis il s'était présenté à Rideau Hall, puis ça va pas passer le test. Ça va pas passer le test constitutionnel.
OK. Est-ce que Yves-François Blanchette serait porté peut-être à retarder un peu le processus à ce que le gouvernement tombe parce qu'il veut tout simplement pas voir Pierre Poilievre là-bas?
Écoute, c'est comme aux États-Unis, hein? Anything but blue, tu sais, c'est comme ça. On évite d'avoir... parce que le problème de la connaissance se situe au niveau de l'échelle politique, Yannick. C'est que depuis, que tu sois au temps de Mulroney, au temps de Chrétien, au temps de Paul Martin, l'économie canadienne a tout le temps été de centre-droite, peu importe que tu étais libéral ou conservateur. Depuis une quinzaine d'années, on a un parti qui s'est recentré, c'est-à-dire le parti conservateur qui s'est défusionné ou qui a fusionné avec les autres partis de l'Ouest, qui s'est recentré un peu plus vers le centre. Mais les libéraux se sont garrochés carrément à gauche au niveau d'une économie sociale collective. Puis c'est pour ça qu'on voit cet écart de connaissances ou de, je te dirais, de friction entre le centre-droite. C'est pas de l'extrême-droite, c'est du centre-droite avec de la gauche prononcée. Alors, c'est là qu'on a l'écart présentement. Puis, le message ne passe pas. On sait qu'on a une dette sur l'économie canadienne de 57 milliards de dollars. Donc, c'est 14 milliards de dollars de plus au moment où on se parle des 10 premiers ministres qui ont précédé le premier ministre actuel. Et on sait très bien que les deux prochaines années du prochain gouvernement seront des années très restrictives au niveau économique. On va se serrer la ceinture parce qu'il faut vraiment ramener une balance économique stable au pays.
Louis Gauthier, chroniqueur international, tu nous amènes en Mongolie.
Oui, parce que la Mongolie avait annoncé publiquement la semaine dernière qu'elle allait procéder à l'arrestation de Vladimir Poutine, et ça à la demande de l'Ukraine, lors de la visite de Vladimir Poutine ce matin à notre heure, là, en Mongolie.
Il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi eux se donnaient ce droit-là, puis pourquoi la Mongolie arrive dans le terrain de guerre et d'entente. Là.
Parce que la Mongolie est un pays membre de du Conseil pénal international, de la Cour pénale internationale à La Haye. Donc, elle avait le mandat d'arrestation a été émis par la Cour pénale internationale à La Haye. La Mongolie était membre, se devait d'appliquer le mandat d'arrestation. Elle ne l'a pas fait. N'oubliez pas que géographiquement, la Mongolie est un pays limitrophe à la Russie. Donc, la Mongolie se situe au sud de la Russie. Et c'est pareil comme Québec avec l'État de New York, là, ou le Maine, c'est la même chose.
Mais partage une frontière, là.
Oui, ils partagent une frontière. Lorsqu'on dit limitrophe, c'est partage vraiment la frontière. Et on ne voulait pas. Mais quel message que ça envoie à la communauté internationale? Ça démontre l'emprise que Vladimir Poutine a sur l'Europe et l'Asie. L'attaque en démontre très, très bien, qui a eu lieu en début de semaine, où il y a eu plus de 60 morts, près de 300 blessés dans l'attaque la plus meurtrière en Ukraine. Et ça vous montre à quel point il était à peine à même pas 5 heures de route de Kiev, en Ukraine. Ça vous démontre à quel point il a frappé fort. Puis il a frappé dans des entreprises où il y avait de la formation militaire qui se faisait. On a retrouvé la présence de militaires suédois sur place. Donc, ça vient encore mettre du poids à l'effet que des pays membres de l'OTAN ont une présence physique sur le lieu de combat qui est l'Ukraine. Alors là, Vladimir Poutine est en train vraiment de montrer ses couleurs puis frapper fort, puis il a l'intention de finir ça très rapidement ou de forcer une négociation avec cession territoriale.
C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire avec les drones. Je ne sais pas si tu as vu les images, là, ça circule beaucoup sur TikTok, les drones qui sont capables de rentrer dans des espaces très restreints pour aller chercher comme 50 soldats qui sont cachés en dessous d'une bâtisse. Ça va hyper rapide, puis il y a une puissance dans ces drones-là au niveau de l'explosion qui est très impressionnante, là.
Bienvenue à l'ère de l'intelligence artificielle.
Ouais. Moi, ça m'inquiète vraiment. Je trouve ça fascinant de le voir, mais en même temps, quand c'est utilisé à mauvais escient, imagines-tu le carnage qu'on peut faire?
Oui, en même temps, c'est, mettons, pour les soldats, il y a moins de soldats qui décèdent de l'autre
côté. Oui, sauf que c'est pas régulé, comprends-tu? On n'a pas mis des balises dans tout ça, dans cette utilisation-là.
Toi, t'aurais mieux une bonne bagarre à point nu.
Moi, j'aimerais bien l'escrime.
L'escrime?
Oui.
Mais de toute évidence, tout ce qui est de ronde de négociation en Ukraine ne fonctionne pas. On arrive au troisième anniversaire. De toute évidence, on arrive à un an de l'attaque dans la bande de Gaza. Les négociations ne vont pas, mais là, on met de la pression sur Israël. Parce que, souvenez-vous ce que je vous ai dit, quand on attaque le territoire israélien, eux autres, quand ils vont prendre la relève, watch out, vous n'êtes pas prêts à les arrêter. Puis là, ils sont en train de frapper dans l'Hezbollah, sud Liban, la Cisjordanie, ils frappent partout parce qu'ils savent que l'armement, le support militaire qui est là est financé par l'Iran, tout comme l'Iran aide à financer les avancées militaires de la Russie. parce que ce qu'on parlait des drones tantôt, ce sont de fabrication iranienne. Puis, quand on dit de fabrication iranienne, là, bien, demandez-vous où est-ce que c'est fabriqué, parce que c'est pas en Iran que tu vois les usines. Il n'y avait pas le droit d'avoir de nucléaire et tout ça. Ça se fait tout au Yémen. Donc, on sait que ça vient du Yémen. Donc, le Yémen, on sait que c'est l'université du terrorisme au monde. Et ils participent à l'effort de guerre. Donc, oui, on est dans un conflit mondial. Oui, la négociation diplomatique ne fonctionne vraiment pas du tout. Et il va falloir qu'il se passe quelque chose au niveau économique de beaucoup plus concret, parce que même des pays membres de la du tribunal international n'appliquent pas de facto les mandats qui leur sont octroyés. Quand tu es membre, là, écoute, quand tu as un procureur de la couronne dans un palais de justice qui se dit par son bas, tu déposes des accusations, tu les appliques pas, ben, reviens pas dans le bureau parce que tes boîtes de carton vont attendre sur le bord du coin. Sur le coin du bureau.
Louis Gauthier, t'es notre imminence grise dans ce show-là en raison de ton expérience, ta vaste expérience année après
ouais,
année.
Ben oui, ben je le sais, tu m'enterrais déjà tantôt. Oui,
c'est ça. quand est-ce que Arachide Latourbe, ça a fait en sorte qu'un ministre israélien a dit « Ah, ben finalement, il arrache la tourbe à l'Université de McGill à Montréal. » Fait que, ouais, ils sont fâchés, on va arrêter la guerre. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est pas nécessairement, ben, tu sais, je veux dire, j'aimerais que la guerre cesse entre Israël puis la Hamas, parce qu'il y a beaucoup de victimes d'un bord comme de l'autre, tant palestiniennes qu'israéliennes. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est les gens qu'on a acceptés ici, vivre chez nous, puis qui décident de tout détruire dans la place parce qu'ils ont des demandes à faire au gouvernement canadien ou ils veulent envoyer un message dans le monde. Ces gens-là me font vraiment peur. Puis en même temps, les autorités me font peur parce qu'ils foutent absolument rien contre ces gens-là, alors que si toi et moi, on allait casser une vitrine parce qu'on se dit « Hostie, le Canadien a encore perdu la Coupe Stanley, je suis fâché, c'est sûr qu'on se ferait arrêter, toi et moi. » Eux autres, on dirait qu'ils ont comme carte blanche au nom de la vertu, peuvent tout péter à Montréal parce qu'ils veulent que la guerre avec Israël, à Israël se termine. Mais quand est-ce que c'est arrivé, ça, que dans un autre pays, on fasse changer un ministre?
Mais Yannick, il nous reste combien de temps? Parce que veux-tu que je te fasse un cours constitutionnel sur la liberté d'expression?
Vas-y, avec 2 minutes.
Bon, bien, la liberté d'expression, là, allez lire ça, là, vous allez voir les largesses que tu as d'application là-dedans. C'est La diversité canadienne, la loi sur la diversité canadienne, la loi sur la vérité, la conciliation, la réconciliation permet de tout faire ça. On a réussi à éteindre et à effacer l'histoire canadienne constitutive, puis on se permet, basé sur la liberté d'expression, de nous permettre de tout faire. C'est pas juste au Canada, ça arrive aux États-Unis, c'est arrivé il y a 2 jours à l'Université Columbia, en plein centre-ville de Manhattan. Là. Ils sont habillés comme des Yasser Arafat, toute la gang, ça casse des vitres, tout ça pour la rentrée scolaire.
Mais tu sais, au nom de moi, je suis pour la liberté d'expression, Louis, mais le problème, c'est que moi, les lois qui sont bonnes pour moi doivent l'être pour eux. Je les accepte chez nous, je suis très heureux de les accepter s'ils veulent vivre en paix. Mais à partir du moment où il y a de la casse, les lois sont faites autant pour moi que pour eux, ils doivent se retrouver en tôle.
Oui, bien, écoute, vas-tu les mettre en tôle? Nous, on était habitués à respecter les lois de notre pays. On est habitué, lorsqu'on visite, on va dans les autres lois de notre pays. Il faut que tu comprennes que ce sont des groupes formés, basés sur un agenda politique. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. On appelle ça des cellules de propagande qui ont toujours affecté les campus universitaires, les campus collégiaux à travers le Canada puis aux États-Unis. Ça a toujours été. C'est parce qu'ils réussissent à... Puis les journalistes et les médias, c'est sûr, c'est du sensationnalisme. On passe là-dessus, on filme ça, on monte ça à la télévision. Mais est-ce que le gouvernement a les moyens d'amener ces gens-là devant les tribunaux? La question se pose. Parce qu'il faut avoir le courage d'amener ces gens-là vers les tribunaux. Puis est-ce que nos tribunaux ont le temps d'entendre ces causes-là?
Non, mais c'est au municipal. Ce qu'ils ont fait à McGill, ça peut être applicable au municipal. C'est une... Tu procèdes à leur arrestation.
Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont les ressources, Yannick?
Montréal est en train de devenir un shithole à extrémistes, là.
Bien, c'était déjà un shithole avant même qu'il y ait des extrémistes. Cette ville est en réparation. Puis je parlais avec l'ancien maire de Montréal ce matin, Denis Coderre. Il fait quasiment de l'urticaire juste à parler de la ville qu'il a dirigée de 2013 à 2017, de voir à quel point c'est démoli.
Est-ce que tu peux lui dire qu'on aimerait lui parler, nous aussi? On n'arrive pas là, à le booker. Il ne nous répond pas tant qu'il veut.
Ah, ben je peux vous régler ça. Je
Parfait,
vais
je m'excuse.
Texter ça. Je vais le texter tantôt, puis je vais lui dire de rentrer en contact avec toi, Yannick.
Ça ne doit pas être une belle journée pour Nicolas.
Pascal, ça dépend lequel des deux qui veut parler.
Le plus fiable, ce serait moi.
Qui a plus de chance, Pascal ou Yannick?
Ce serait Pascal. Ce serait Pascal.
C'était plus pour la fiabilité.
Louis
mais bon.
Gauthier, c'est toujours un plaisir d'être à Vancouver, là.
Oui, je suis à Vancouver, puis il y a un petit breaking news. L'école de Warden à Atlanta a été atteinte, a eu un attentat. C'est une école junior high. Donc, on a jusqu'à maintenant deux morts sur place.
Ah.
Donc, c'est la rentrée scolaire aux États-Unis, comme à chaque année. On a son lot de fatalités qui frappent les campus scolaires.
Louis Gauthier, merci.
Bonne journée tout le monde.
Bye-bye. L'excellent Louis Gauthier, chroniqueur international. 1h14, on s'en va en pause. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Par téléphone, c'est le 88-780-1021. On vient. Boulevard 1021.